VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 15 août 2017. Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, inondation en Sierra Leone, plus de 300 morts et des milliers de sans-abri. Le président lance un appel à l'aide internationale. Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso admet une crise économique dans son pays. En Algérie, le Premier ministre nommé il y a 3 mois vient d'être limogé et remplacé par un autre proche du président Bouteflika. Pyongyang suspend son projet de tirer des missiles près de l'île américaine de Guam dans le Pacifique, contribuant à baisser la tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Kabadou pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Le président Sierra Leoneais a lancé un appel à l'aide internationale après les glissements de terrain et les inondations qui ont fait plus de 300 morts et des milliers de sans-abri à Freetown. Le point avec Dili Diko.
Les services de secours luttent pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres de plusieurs quartiers de Freetown. « Nous sommes débordés, la Sierra Leone a un besoin urgent d'aide », a déclaré avec émotion le président Ernest Bai Koroma dans le quartier de Regent, un des plus touchés par la catastrophe. Les inondations ont provoqué le glissement d'un pan d'une colline et les éboulements ont enseveli plusieurs maisons. Des coulées de boue et des torrents d'eau ont balayé les bidonvilles. Après 3 jours de pluie torrentielle, les systèmes de drainage et d'égouts sont submergés. La Croix-Rouge avance un bilan de 312 morts, mais ce chiffre pourrait être revu à la hausse, selon le ministre de l'Intérieur, Paulo Conte, qui a souligné que des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Plusieurs gouvernements étrangers ont promis leur aide, dont l'Union européenne et la Grande-Bretagne.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a confirmé la large victoire de la coalition au pouvoir, 125 députés sur 165, lors du scrutin du 30 juillet. Les deux coalitions d'opposition, celle de l'ancien président Abdoulaye Wade et celle du maire de Dakar, Khalifa Sall, tous deux élus, ont remporté respectivement 19 et 7 sièges. Au total, 14 partis seront représentés au Parlement, avec pour la première fois 15 députés représentant les Sénégalais de la diaspora. La participation s'est élevée à 53,66% des 6,2 millions d'électeurs inscrits. En Centrafrique, des ONG implorent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de prendre des mesures immédiates, soulignant qu'au moins 821 civils ont été tués depuis le début de l'année. Les organisations estiment que le mandat de la mission onusienne pour protéger les civils n'est pas rempli en raison d'un manque de ressources humaines et financières. Elles demandent à M. Guterres de permettre à la MINUSCA d'avoir les moyens de son mandat. Au Kenya, Raila Odinga, le candidat malheureux à la présidentielle, reporte à demain l'annonce de la stratégie qu'il compte adopter pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta. Dans le même temps, deux organisations qui prévoyaient de saisir la justice contre les résultats du scrutin se sont vues enjointes de cesser leurs activités. Le point avec Eddy Sango.
L'annonce attendue du leader de l'opposition kényane n'a pas eu lieu aujourd'hui. La NASA, coalition d'opposition, évoque la complexité et la nature délicate des questions pour expliquer ses reports. Après la publication des résultats, Raila Odinga s'est rendu dans les bidonvilles de Kibera à Nairobi, où il a déclaré qu'il ne va pas renoncer à dénoncer l'élection. L'opposition a déclaré qu'elle ne va pas non plus recourir à la justice. Deux ONG qui voulaient saisir la Cour suprême ont été interdites d'activité, officiellement à cause d'impôts impayés, des comptes en banque illégaux et l'absence des permis de travail pour des employés étrangers. Ces ONG ont rejeté ces accusations et parlent d'une tentative d'intimidation. Les deux organisations émettent des doutes sur la sincérité du gouvernement qui a appelé à utiliser les voies légales pour contester l'élection. Les violences qui ont éclaté suite à la publication des résultats à la présidentielle ont fait au moins 16 morts.
Grace Mugabe, sous le coup d'une plainte pour coups et blessures en Afrique du Sud. Première dame du Zimbabwe, pressentie comme possible successeur de son mari, Robert Mugabe, elle est soupçonnée d'avoir agressé une top modèle dans un hôtel. Le premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune vient d'être démis de ses fonctions 3 mois après sa nomination. Le point avec Anastasie Tudiech.
Le remplaçant de M. Tebboune est considéré comme l'un des hommes forts du régime. Ahmed Ouyaïa est le chef du Rassemblement national démocratique, allié crucial du FLN au pouvoir. À l'origine du limogeage d'Abdelmajid Tebboune, des problèmes de communication avec le président Bouteflika. Les médias privés se sont fait l'écho ces derniers jours d'une sévère lettre de recadrage adressée par le président algérien à son premier ministre, critiquant notamment les récentes mesures limitant les importations de nombreux produits. D'après le politologue Rachid Tlemcani, M. Tebboune est victime d'une lutte des clans à la tête de l'État. Il aurait touché aux intérêts de certains oligarques du clan présidentiel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, des manifestants antifascistes ont renversé une statue à Durham, en Caroline du Nord. Le monument, érigé en 1924, rendait hommage aux soldats confédérés qui s'opposaient à l'abolition de l'esclavage durant la guerre de sécession. Pas de Ku Klux Klan, pas d'Amérique fasciste, scandaient les protestataires. Il faut dire que samedi, à Charlottesville, une manifestation d'extrême droite pour empêcher le retrait d'une statue d'un général confédéré entrait la mort d'une femme de 32 ans tuée par un militant d'extrême droite. Kim Jong-un a annoncé mettre une pause au projet de tirer des missiles près du territoire américain de Guam. Cependant, Pyongyang avertit que cet exercice ira de l'avant en cas de nouvelle action irresponsable de Washington. John Lindon.
Avant de donner l'ordre de mettre cette menace à exécution, Kim Jong-un a déclaré qu'il allait observer encore un peu les États-Unis. S'ils persistent dans leurs actions irresponsables et dangereuses dans la péninsule coréenne, dit-il, la Corée du Nord prendra des mesures telles que déjà annoncées. Afin de désamorcer les tensions et d'empêcher un dangereux conflit militaire, il est nécessaire que les États-Unis décide les premiers, une option appropriée, a-t-il ajouté. Les tensions entre Washington et Pyongyang ne cessent de s'aggraver depuis que le Nord a testé en juillet 2 missiles balistiques intercontinentaux. Pyongyang avait menacé de tirer des missiles sur l'île américaine de Guam. En réponse, le président Donald Trump avait promis le feu et la colère. À Guam, l'annonce nord-coréenne a été saluée. Les autorités se disant heureuses que Kim Jong-un ait reculé. La Chine a pour sa part estimé que la crise a atteint un tournant inquiétant et qu'il est temps de revenir à la table des négociations.
Les talibans mettent en garde Donald Trump contre un accroissement de la présence militaire américaine en Afghanistan. Les expériences précédentes ont démontré qu'envoyer plus de troupes en Afghanistan aura pour unique effet plus de destruction du pouvoir militaire et économique américain, selon le texte de la lettre ouverte au président américain. Il serait donc sage pour vous d'adopter une stratégie de retrait complet de l'Afghanistan plutôt que d'accroître les troupes, souligne la lettre. Il faut également noter que des fosses communes contenant les restes de plus de 40 civils ont été découverts en Afghanistan après la libération d'un village occupé début août par les talibans et le groupe État islamique. C'est ce qu'ont indiqué des responsables. Lutte contre le groupe État islamique en Irak, Tal Afar a été la cible d'un bombardement aérien. L'opération a été menée par l'armée irakienne en préparation à l'assaut pour reprendre cette ville. Tal Afar, c'est le dernier bastion de l'organisation djihadiste dans la province de Ninive, située à 70 km à l'ouest de Mossoul. La véritable bataille pour la reprise de la ville n'a toutefois pas encore commencé, d'après les autorités. Migration vers l'Europe, l'Italie dit voir la lumière au bout du tunnel. Ce pays a vu débarquer plus de 600 000 migrants sur ses côtes depuis début 2014. Mais les arrivées ont marqué un net fléchissement cet été. Environ 13 500 depuis le 1er juillet contre 30 500 sur la même période en 2016. Au moins 221 personnes ont péri dans les inondations et glissements de terrain de ces derniers jours au Népal, en Inde et au Bangladesh. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui les autorités de ces pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Ekia Badou, la Minute Éco.
En Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 100 000 francs CFA fait sursauter les petits agriculteurs. Le syndicat national des producteurs de café et cacao l'a dénoncé, disant que cette taxe vient d'être instaurée sans leur consentement par le Conseil du café-cacao sous tutelle du ministère de l'Agriculture. 220 000 euros, c'est le montant investi par la Chine en Éthiopie pour son industrialisation accélérée. Une nouvelle usine construite en 9 mois à l'entrée du parc industriel d'Awassa au sud de la capitale est en stade d'essai de production. Bientôt, la main-d'œuvre transformera le fil importé de Chine en tissu, puis ce tissu prendra la forme de chemises made in Ethiopia et porteront les marques Calvin Klein ou Tommy Hilfiger pour être exportées vers l'Europe et les États-Unis. Un nouveau billet de banque fait polémique à Madagascar depuis fin juillet. Il s'agit d'une coupure de 20 000 ariars, l'équivalent de 3 700 francs CFA. C'est le plus gros billet jamais mis en circulation sur la grande île. Une partie de la population est choquée dans ce pays où la majorité des gens gagnent moins du quart de cette somme par jour. Si certains malgaches sont soulagés de ne plus transporter des liasses de billets, d'autres trouvent le billet de 20 000 ariars difficile à utiliser et craignent une flambée des prix ou encore le blanchiment d'argent.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Qui remportera le titre du joueur UEFA de la saison 2016-2017? La liste des prétendants a été révélée aujourd'hui.
Trois finalistes, à commencer par Gianluigi Buffon, le gardien et capitaine de la Juventus Turin. Buffon a réalisé le doublé Coupe Championnat d'Italie et atteint la finale de la Ligue des Champions, on s'en souvient, remportée par le Real Madrid d'un certain Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais, qui a également décroché le Championnat d'Espagne et la Supercoupe d'Europe, fait figure de grand favori pour se succéder à lui-même. Avec une troisième couronne de ce trophée individuel, il devancerait son grand rival Lionel Messi, qui n'a gagné que la Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone.
On reparle de la suspension de Cristiano Ronaldo en Espagne.
Le Madrilène a été suspendu 5 matchs suite à son exclusion controversée lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne par le Real à Barcelone. Son entraîneur Zinedine Zidane se dit très contrarié. « Je peux me tromper, mais 5 matchs après ce qu'il s'est passé, c'est beaucoup », a asséné Zidane, disant espérer que le comité d'appel de la Fédération espagnole allégerait cette sanction.
Transfert, Sofiane Ferouli est arrivé en Turquie.
L'Algérien est le nouveau joueur de Galatasaray. Après Younes Belanda et Batefimbi Gomis, Galatasaray réussit un nouveau coup sur le marché des transferts. L'international algérien a signé un contrat de 5 ans. West Ham, où évoluait le joueur de 27 ans depuis un an seulement, devra percevoir entre 4 et 5 millions d'euros d'indemnité de transfert.
Barrage de la Ligue des Champions.
Liverpool se déplace ce soir à Hoffenheim en match aller des barrages de la Ligue des Champions. De son côté, le Sporting Portugal aura une tâche également compliquée contre le Steaua Bucarest, match retour en Roumanie. On rappelle que les 10 clubs vainqueurs de ces barrages de la C1 rejoindront les 22 autres directement qualifiés en phase de poule, dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco.
Athlétisme, Managoy en confiance.
Oui, le Kenyan Elijah Manangoy, récent champion du monde du 1500 mètres à Londres, se sent capable de réaliser le doublé en remportant sa première ligue de diamants sur la distance. L'athlète de 24 ans, spécialiste du demi-fond, est actuellement en tête du classement du 1500 mètres avec 30 points. Avant la dernière course de la saison sur la distance, ce sera à Zurich le 24 août.
Merci Nicolas.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Pays sahélien autrefois épargné du terrorisme, le Burkina Faso est depuis ces deux dernières années le théâtre d'attaques djihadistes meurtrières, la dernière perpétrée dimanche à Ouagadougou. Avec la montée et la fusion des groupes djihadistes opérant dans le Sahel, il n'y a pas que le Burkina Faso qui est directement menacé. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Babacar Ndiaye, spécialiste des conflits armés et du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Le Burkina commence à être quand même continué de fait en termes d'attaques terroristes. Écoutez, moi je pense que c'est à l'image des pays de la région, hein. Vous savez, c'est difficile de combattre aujourd'hui le terrorisme parce qu'il faut des moyens, il faut des services de renseignement qui soient très performants, il faut aussi des forces de sécurité qui soient vraiment bien formées, outillées pour faire face à la menace. Donc pour moi c'est un ensemble de facteurs qui peuvent vraiment pouvoir enrayer cette menace terroriste. Donc le Burkina, ce n'est pas un pays ciblé en tant que tel, c'est juste que voilà, c'est... À l'image des pays de la région, ce sont les pays qui sont face à des menaces terroristes.
Justement, hormis le Mali et le Burkina, quels sont les pays de la sous-région qui ne sont plus à l'abri du terrorisme et comment peuvent-ils lutter contre la menace?
Écoutez, c'est une menace globale. Aujourd'hui, je pense que si on doit faire une liste de pays qui doivent être épargnés par le terrorisme, pour moi, c'est vraiment ne pas comprendre ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des groupes armés qui sont dans le Sahel, qui sont dans la région et qui ont envie d'en découdre avec les pays et qui ont envie de perpétrer des attaques sur le sol de ces pays-là. Donc, à mon avis, aujourd'hui, aucun pays ne peut se dire, ne peut juger ou bien dire que je suis à l'abri de la menace terroriste. C'est une menace qui est globale et que chaque pays doit vraiment prendre cette menace au sérieux et essayer de mettre en place un dispositif de sécurité, de mettre en place des moyens et surtout de collaborer avec les autres pays de la région. Pour moi, aujourd'hui, il faut porter une réponse globale à cette crise. Nous voyons, par exemple, l'initiative du G5 Sahel.
Quels sont ces groupes qui représentent aujourd'hui une véritable menace pour la sous-région?
On a dans la région ce qu'on appelle ATMI, qui a toujours des dissidences en son sein. Nous avons Al-Mouradikoun avec Mokhtar Ben-Mokhtar et d'autres groupes djihadistes sont dans la région. Et donc, il essaie vraiment de savoir, par exemple, ce qui s'est passé au Burkina. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore entendu des revendications d'un groupe. Aujourd'hui, il faut voir la guerre contre le terrorisme comme une guerre asymétrique. Nous avons des États, des puissances qui sont dans la région, des pays qui sont là et qui font face à des groupes. Et donc, c'est très difficile pour ces pays-là de pouvoir vraiment combattre de manière efficiente par ces groupes-là. Pourquoi? Parce que c'est les groupuscules. Ceux qui ont perpétré l'attaque de Ouagadougou, d'après ce que j'ai lu, ils sont entre 2 et 4. Et voilà, il est vraiment difficile d'apporter une réponse efficiente face à cette question. Et donc, oui, on a beaucoup de groupuscules qui sont dans la région, qui sont là, qui essaient de perpétrer des menaces. Certains groupes plus jeunes, d'autres se renforcent. D'autres montent en puissance, mais voilà, c'est le moment de prendre à disposition pour pouvoir apporter une réponse adéquate face à ces menaces.
Babacar Ndiaye est spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest, joint à Dakar. Il sera l'invité de Jacques Aristide dans Washington Forum ce jeudi à 19h, temps universel.
À votre avis, ce soir, à 18h, temps universel sur VOA Afrique, les inondations en Sierra Leone ont fait plus de 300 morts et quelques 3000 sans-abri hier à Freetown. Ce pays a connu 3 jours de pluie torrentielle qui ont provoqué un gigantesque glissement de terrain. Ce phénomène s'est déjà observé dans plusieurs villes africaines. Pourquoi, selon vous, cette catastrophe est-elle fréquente? Sentez-vous en sécurité chez vous? Vos constructions suivent-elles les normes pour résister aux inondations éventuelles? Ou est-ce que vous situez le problème? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33. Rendez-vous sur VOA Afrique en compagnie d'Eric Manilakis. À tout à l'heure.
La jeunesse, fer de lance de toute nation. Au Burkina Faso, que désirent les jeunes? Quels sont leurs rêves et dans quelles conditions vivent-ils? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Les jeunes constituent la frange la plus importante de la population burkinabé. Cependant, cette jeunesse assure ne pas sentir les gouvernants. Chérif Dagano, étudiant en droit, explique.
On veut sentir, en fait, nos dirigeants, depuis l'ex-régime jusqu'à maintenant, vraiment, il n'y a pas vraiment de... On sent rien, en fait. On sent pas de mouvement. On sent pas que ça bouge. Au niveau de création d'emplois, innovation et tout ça, c'est RAS qu'on me le dit.
RAS, où rien n'a signalé chez les jeunes, ne veut point dire tout va bien. Bien au contraire. Draman Bonkungu, il relate ici les conditions difficiles.
Moi, j'ai des papiers d'entreprise, mais j'ai pas un fonds de déroulement, j'ai pas de soutien, rien. Je me demande comment faire. Moi, je pense que en ce moment, ceux qui n'ont rien, ils seront toujours rien. Bon, moi, je pense que la jeunesse burkinabé, l'État a dû nous oublier. Les jeunes ont des idées et qu'on n'a pas de soutien. Bon, moi, je pense que ces idées vont s'effondrer.
Si chez les jeunes hommes, c'est assez difficile, cela l'est encore plus chez les jeunes femmes. Suivons Marianne Compaoré.
Pour nous, les femmes, c'est difficile parce que tu ne peux pas dire pour chercher du boulot. Le patron te propose des trucs, des propositions indécentes. Certains sont obligés de céder parce qu'elles sont en manque de moyens. C'est difficile pour nous. Et de fois aussi, on est obligé de s'humilier pour survenir aux besoins. Pour le boulot, là, c'est dur à trouver parce que tu peux finir tes études et chercher pendant 3 ans, 4 ans comme ça, chercher du travail et puis tu ne trouves pas. Tu es obligé de vendre des petits trucs pour pouvoir survenir à tes besoins.
Face à ces difficultés, le sport et la musique sont des porte de sortie. Aristide Zundi relate son entrée dans la musique.
Moi, j'ai décidé de rentrer dans la musique pour pouvoir m'en sortir. Quand il n'y a pas les moyens, tu finis l'école, tu veux chercher à faire un boulot, tu n'arrives pas à obtenir le boulot que tu veux. Tu es obligé de rentrer dans un métier forcément, parce que ce métier, même si ça ne t'intéresse pas, tu es obligé de rentrer dans ce métier. Priez que Dieu te soutienne là-dedans, parce que réellement, ce n'est pas facile.
Alfred Sawadogo, initiateur du MROD, Mouvement de réflexion sur les opportunités de développement, voit comme solution l'implication des jeunes dans les sphères de décision, suivant sa démarche.
Au jour d'aujourd'hui, combien de ministres burkinabés ont moins de 35 ans? Combien de députés burkinabés ont moins de 35 ans? Combien de DG ou de directeurs de services ont moins de 35 ans? Dans un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans, il est nécessaire, il est logique que les jeunes soient de plus en plus représentés dans les sphères de décision et de gouvernance. Emmanuel Macron devrait inspirer non seulement la jeunesse burkinabé, mais la jeunesse africaine tout entier.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le point sur le dernier attentat terroriste Burkina Faso, mais aussi sur les nouvelles menaces djihadistes en Afrique. Pourquoi le Burkina est-il visé? Quels sont les autres pays désormais pris pour cible? Les États africains ont-ils les moyens de lutter contre les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso reconnaît que son pays traverse une crise économique. La dette publique du pays riche en pétrole représente 117% du produit intérieur brut, selon le Fonds monétaire international, qui a affirmé récemment que le Congo lui avait caché une partie de sa dette. De Brazzaville, la correspondance de Nguyen Nguesso.
L'ambiance a été très festive et solennelle à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Plusieurs Congolais se sont rendus sur le lieu du défilé et se disent satisfaits.
On est vraiment contents de... J'ai découvert que les gens pour le défilé, j'ai vu que c'était vraiment fantastique pour nous. Donc, ça soit bien fait, il a bien fait, donc je lui félicite.
Nous avons découvert de bonnes choses, nous avons vu aussi des gens qui vivent souvent dans des... Des provinces intérieures, nous sommes venus voir comment c'est la fête de l'indépendance. Comment c'est bien.
Cette célébration se déroule cependant dans un contexte de crise économique très aiguë que le président Denis Sassou Nguesso a lui-même reconnu.
Les recettes budgétaires et les investissements publics sont en baisse continue. Presque tous les secteurs de l'économie nationale sont touchés par la récession. De toute évidence, lorsque l'économie est malade, le social court le grave risque d'être à son tour contaminé.
Pour le mouvement citoyen Ras-le-Bol, cette célébration pompeuse a été du gâchis. Charlène Kinoani, le coordonnateur adjoint du Ras-le-Bol.
Ça devait permettre de privilégier d'autres situations. Par exemple, nous avons les fonctionnaires du CHU aujourd'hui qui n'ont pas de salaire. Nous avons les étudiants qui sont quasiment à 9 mois. Sans bourse. Nous pensons que c'était même obligatoire au vu de la situation économique actuelle, de sursoir cette fête d'indépendance. Parce qu'on ne fête pas lorsqu'on n'a pas l'argent.
L'analyste économique Alphonse Ndongo estime que le gouvernement devait privilégier les dépenses nécessaires pour éviter de s'engouffrer dans la crise.
La démarche des autorités pour le commun des mortels est un peu incompréhensible puisqu'on sait que le Congo traverse une situation financière très difficile. Le montant de la dette reste certes inconnu, mais on parle de plus de 120%, sinon 120% du produit intérieur brut.
Après cette manifestation marquée par plusieurs banquiers dans la ville, le Congo doit se préparer à passer en programme avec le Fonds monétaire international, une étape redoutée par les fins limiers de l'économie congolaise. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Le département d'État américain constate un recul en matière de liberté religieuse dans le monde. Le rapport annuel qu'il a publié aujourd'hui indique que près de 80% de la population mondiale vit dans des pays qui ne leur permettent pas d'exercer leur liberté de croyance. Pour en parler, Rick Maniarakiza a joint au Botswana Brian Neubert, chargé de la communication au département d'État américain.
La situation est pire qu'avant. Surtout, c'est la situation au Soudan. Il y a une certaine oppression contre les populations chrétiennes. Il y a certaines questions d'apostasie qui n'est pas légale. Également au Nigeria, il y a quelques problèmes pareils pour certains membres de la population. Un autre élément dans certains pays, y compris le Kenya, nous trouvons que certaines lois ou certaines motivations concernant la sécurité sont en général utilisés des fois contre des membres d'une certaine religion. En Éthiopie et au Kenya, c'est en général les populations musulmanes. Dans plusieurs pays, nous avons l'opportunité à communiquer nos concerns avec le gouvernement et ça, c'est quelque chose qui continue.
Et quels sont les pays où cette liberté est respectée?
Je dirais, par exemple, en République centrafricaine, c'est pas du tout respecté, mais il y a au moins un processus de réconciliation. Donc, c'est un pays qui nous concerne, mais au moins, il y a un processus et nous avons appelé, nous avons discuté avec tous les parties prenantes le fait que c'est essentiel de poursuivre, de suivre une solution de réconciliation. En général, la Maurice, l'Afrique du Sud, les pays qu'on peut imaginer qui ont une bonne gouvernance et qui respectent l'état de droit, ce sont des pays où nous trouvons très peu de problèmes dans ces éléments.
Et qu'est-ce qui peut être fait pour justement qu'il y ait évolution positive en matière de liberté de culte?
Ce que nous pensons pour les États-Unis, c'est une valeur pour nous, mais la liberté d'expression religieuse, la liberté religieuse internationale, ça fait partie du respect des droits de l'homme, du respect de l'état de droit. Dans plusieurs pays, même ce que je viens de noter, les lois protègent la liberté religieuse, mais ce n'est pas respecté en réalité. Et puis, il y a d'autres pays où il y a même les lois qui ne protègent pas, qui sont dans une sorte contre ces droits. Et je pense que si nous pensons cette liberté est complètement fondamentale pour un être humain à choisir ce qu'il veut croire comme religion, c'est essentiel que ça soit un droit à protéger. Il s'agit de 80% de la population du monde. Nous sommes très loin d'une solution. Donc, le dialogue continue. Nous venons de nommer le gouverneur Brownback, ambassadeur, le nouveau ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse. Lui, il va engager avec plusieurs pays du monde en dialogue pour suivre une solution.
Voilà, c'était Brian Neubert, chargé de la communication au département d'État américain. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.